Les balados au IC, un projet de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain, en collaboration avec Figura, le centre de recherche sur le texte et l'imaginaire, vous propose aujourd'hui un épisode de la série d'entretien Pop en stock.
Chers auditeurs et auditrices, chers popophiles, popovores, popologues de tout poil, nous avons aujourd'hui donc dans ce podcast Pop en stock, nous avons donc le plaisir d'accueillir un de nos confrères de l'Hexagone, Clément Pellissier. Tu as donc fini une thèse qui est aussi une sorte de somme sur les super-héros que vous pouvez pour l'instant lire dans sa version inaugurale en ligne, donc le titre étant « Quand la multimodalité narrative rencontre l'imaginaire multisensoriel des super-héros », une approche novatrice, originale de la question des super-héros. Mais ce qui nous retient aujourd'hui, c'est de fêter avec toi l'apparition d'un super essai qui s'appelle donc « Explorer Camelot », donc publié par Third Editions, qui vient pratiquement de sortir, et nous avons la chance donc de pouvoir en deviser de vive voix avec toi. Tu évoques dans le livre un peu la genèse, c'est ta fascination dès 2005, je pense, pour Camelot.
Camelot, c'est une série que vous connaissez aussi au Québec, qui est arrivée jusqu'à vous, mais c'est une série qui a beaucoup plus d'adeptes chez nous dans l'Hexagone qu'au Québec finalement, puisque en fait c'est une série très marquée par sa patte francophone et même régionale française. Et donc en 2005, quand elle apparaît chez nous, c'est un peu une petite révolution parce qu'on a l'habitude des formats courts à l'époque en France, mais un format court qui réécrit, réemploie à son compte la légende du roi Arthur, ça par contre pour nous c'est nouveau. Alors que nous sommes des fans aussi en France des Monty Python, c'est vraiment une bouffée d'air frais et une continuité un petit peu dans les Monty Python d'ailleurs. Astier ne s'en cache pas, l'auteur de la série, qui va arriver en France. Et moi, c'est vrai que quand je découvre ça en 2005, je suis un peu subjugué par ce que je vois à l'écran.
Oui, en fait, tu évoques minutieusement dans une première partie la genèse de Camelot, donc qui part, comme tu viens de l'évoquer, d'une singulière transformation d'un format qui s'était installé plutôt sur le modèle du mini-récit, mini-sitcom, avec notamment donc ces Caméra Café.
La série qui vient juste avant chez nous, c'est Caméra Café, effectivement.
Et qui était donc une sorte de satire de la culture d'entreprise, avec toute une série de stéréotypes qui s'inscrivaient aussi dans une vague de satire du milieu de l'entreprise, autant au cinéma que, évidemment, dans les séries télé du type The Office, version britannique puis américaine. Et donc, ce que ça permettait, c'était le retour de quand même un des grands piliers de la création française depuis le théâtre médiéval, en passant par évidemment l'ombre énorme de Molière jusqu'au cinéma français avec les dialogues de Michel Audiard, etc., etc. Donc cette grande tradition française du dialogue. Or, l'originalité d'Alexandre Astier, c'est de confronter ce modèle, ce nouveau modèle très très punchy, très rapide, très vertigineux même, avec une immense tradition qui remonte au Moyen-Âge et qui est celui de la légende arthurienne. Et c'est vrai que cette rencontre entre ces deux formats est déjà une originalité en soi.
C'est complètement un tour de force, effectivement, parce que déjà, il faut arriver à s'insérer dans un format justement que les gens connaissaient bien et dont ils risquaient paradoxalement d'être lassés. Il fallait une case horaire qui corresponde à un taux d'audience qui fonctionne, et c'est ce qui s'est passé en fait. C'est aussi pour ça que la série a marché, c'est qu'il y a eu une case horaire Elle s'est insérée dans la case horaire de Caméra Café, donc 20h20 chez nous, si je ne dis pas de bêtises, et qui était un moment de grande écoute chez nous. Donc, ça a joué. Hein. On peut avoir à la télévision la meilleure idée possible. Si elle n'est pas suivie, de toute manière, ça ne fonctionnera pas. Donc, Kaamelott a joué sur une bonne étoile là-dessus. Et puis, comme tu l'as dit, effectivement, le tour de force incroyable d'Alexandre Astier, c'est qu'il a réussi à convoquer tant des éléments qui sont donc propres au cinéma français et à ce que le cinéma français apprécie, notamment dans la comédie, que ce soit, donc, tu l'as dit, Audiard ou même Louis de Funès, à qui la série Kaamelott est par ailleurs complètement dédiée. Et il a réussi une alchimie, je parle d'alchimie d'ailleurs dans le bouquin, ouais. Mais je crois que c'est vraiment ce principe-là hein, qui joue, c'est un principe un peu magique, justement avec la légende arthurienne, qui est à la fois extrêmement connue, mais elle est tellement variée et tellement vaste que finalement, on n'en connaît pas tant que ça, ou du moins dans le grand public, quand on regarde bien.
Oui, en fait, c'est la preuve éclatante d'une formule réussie, dans le sens que, d'un côté, ça permet une sorte de, on pourrait même dire, de néo-théâtralité totalement assumée. C'était déjà le cas dans cette sorte de circuit de huis clos, de Caméra Café, mais qui s'étend du coup à la table ronde, et puis peu à peu annexe plein d'autres territoires. L'espace de Kaamelott se nourrit progressivement de différentes expansions, on voyage un peu, mais le centre initial du format, du pitch, c'était ces réunions autour de la table ronde, qui du coup sont traitées, on y reviendra, comme des sortes de réunions d'entreprise. Donc le retour d'une théâtralité totalement assumée où l'essentiel est le dialogue et le jeu d'acteurs et l'idée de jeu elle-même, le fait de se faire plaisir. Le lien avec le jeu de rôle aussi, on y reviendra, le fait que bon, on est assis autour d'une table et finalement, ça ressemble beaucoup au jeu de rôle dont Astier est par ailleurs adepte. Et en même temps, le fait que, bah, contrairement à la pure banalité de Caméra Café, on est là dans un univers extrêmement riche et foisonnant, à la fois par toute l'histoire de toutes les références de la légende arthurienne et à la fois par l'expansion totalement exponentielle que fait Astier en convoquant Star Wars, etc., plein d'autres références.
Bah, ce qui est surtout saisissant, c'est de se rendre compte que pour le terrain du médiévalisme et des études justement du médiévalisme, donc, qui est l'invocation du Moyen-Âge dans la culture populaire, et la réécriture du Moyen-Âge par la culture populaire, Kaamelott se positionne très bien, parce qu'en fait, comme le dit d'ailleurs Astier lui-même, hein, c'est un terrain de jeu immense. Il faut vraiment penser Kaamelott comme un immense terrain de jeu de la part de son créateur et de tous les collaborateurs. De jeu par rapport au théâtre, hein, tu l'as dit, et il faut le rappeler ou informer si besoin, Astier est avant tout un homme de théâtre, justement. C'est pas du tout un homme de la télévision. Il s'est lui-même fait qualifier de pirate dans le milieu parce que justement il n'avait entre guillemets rien à faire là, supposément.
Tu cites le fait qu'il regardait même pas la télé en fait.
C'est ça. Avant, si l'on en croit ses propres dires, avant Kaamelott, il n'avait même pas de télévision. Donc c'est vraiment un pirate de la télé. Comme il l'a dit lui-même, pour créer Kaamelott, je me suis assis devant une télé éteinte et j'ai imaginé ce que j'aurais aimé y voir en fait. Donc, c'est vraiment pas quelqu'un, et on le sent d'ailleurs quand il est au début de la série 2005-2006, quand il est en pleine promo de la série et qu'il est invité sur les plateaux de télévision chez nous, on sent qu'il n'est pas très à l'aise dans ce milieu et que c'est pas un milieu qui lui plaît. Et il a toujours revendiqué que le milieu de la télé ne lui plaisait pas forcément, mais en fait, il veut y jouer. Voilà, il veut faire son œuvre de création et c'est un terrain. Il a d'ailleurs toujours pensé au cinéma. Et c'est quelque chose qui est en train d'arriver, mais malheureusement, avec le Covid, le film a été maintes fois reporté. Là, pour le moment, on ne sait pas ce qu'il en est, mais en tout cas, il a toujours voulu voir plus grand que la télévision. Et la télévision, tu le sais, est un format contraignant, justement. Et Astier, c'est quelqu'un qui a joué avec ses contraintes techniques et idéologiques, quasiment, de la télé.
Oui, puis ce qui est fascinant, c'est que, bon, il faut bien l'avouer, la télévision française est globalement assez merdique. Ce qui est aussi le lot de beaucoup de télévisions qui traînent, une sorte de statisme hérité d'autres âges révolus de la télévision et qui n'ont jamais eu non plus les mêmes budgets que la Prestige TV anglo-saxonne, etc., qui ont eu du mal à créer, à part quelques moments de grâce, comme il y en a eu en France à une certaine époque, avec les téléfeuilletons très justement qui regardaient beaucoup du côté de l'imaginaire, les adaptations de Gaston Leroux, etc., etc., de Gore, tout ça. Mais par la suite, c'est vraiment un milieu qui a été totalement dominé par le mercantilisme le plus cru, et aussi par une sorte de un complexe de vilain petit canard en France par rapport à l'immense tradition de la cinéphilie, etc., tout le prestige consacré au 7e art, et le fait qu'au fond, en France, on dirait que les gens qui ont fait de la télé ont toujours été considérés comme des sortes de manants de l'audiovisuel, et n'ont pas du tout eu le prestige que pouvait conférer, par exemple, la BBC ou Channel 4 ou autre. Donc, c'est vrai que c'est aussi un vent, une bouffée d'air frais, Kaamelott, dans le sens que, justement, c'est quelqu'un qui diffuse. D'ailleurs, moi, j'ai connu Kaamelott à travers YouTube, et je pense que pour beaucoup de gens qui ne sont pas en France, qui ne sont pas adeptes justement de la télé classique, c'est beaucoup grâce à YouTube que Kaamelott s'est complètement réinventé, parce qu'en fond, au fond, son format, il est même meilleur pour YouTube que pour la télé classique. Et donc, c'est vraiment une bouffée d'air frais, dans le sens qu'il ne prend pas modèle sur la production télévisuelle, mais comme tu le dis dans le livre aussi, à la fois sur la tradition théâtrale à laquelle il est initié très jeune par ses parents, etc., qu'il pratique en tant que dramaturge, etc., et de l'autre, à l'autre bout du spectre, le cinéma. Donc, on dirait que c'est de la non-télé faite par tous les autres arts connexes, sans référence vraiment à la tradition télévisuelle.
C'est ça, et c'est d'autant plus vrai que, autant dans les premiers livres, donc globalement des livres 1 à 4, puisque en fait de saison, on va plutôt parler de livres pour Kaamelott, le jeu phonique a été complètement voulu par Astier. Mais du coup, de la saison 1 à 4, le format en court-métrage va très bien fonctionner pour M6 qui le diffuse. D'ailleurs, les taux d'audience vont crever le plafond. Hein. Mais par contre, à partir des livres 5 et 6, qui sont vraiment des courts-métrages, eh bien, la diffusion en coupure télé ne va plus du tout marcher. Et pour apprécier vraiment ces deux derniers livres dans la quintessence de la création telle que voulue par Astier, même Astier lui-même le dit, il faut aller voir les DVD qui sont la version Director's Cut, on va dire, ou plutôt, oui, la version la plus fidèle à ce que Astier lui-même voulait faire. En fait, on sent vraiment que dans son processus de création, au fur et à mesure que son récit se construit, un récit qui par ailleurs s'assombrit énormément et qui nous rappelle que la légende arthurienne, pour une bonne part, elle n'est pas lumineuse, justement, eh ben, on sent vraiment la volonté de raconter une histoire qui, justement, a besoin de grands espaces, que ce soit géographique, même dans la fantasy qu'elle propose, ou même dans son format d'expression. Elle a besoin d'aller plus loin que le format épisodique et la petite scénette de quelques minutes à peine.
Oui, donc dans la première partie, tu fais aussi justement l'analyse de ces alchimies. Le mot est bien trouvé, et il y a quelque chose de propre à cette série dans son rapport à un grand thème hyper moderne ou contemporain, qui est celui du recyclage culturel, sur lequel nous avons déjà plusieurs fois travaillé aussi. Et c'est une façon particulière, donc, qu'on va pouvoir explorer tout au long de ton livre, qui d'ailleurs s'intitule « Explorer Kaamelott ». Et c'est vraiment ça, cette idée qui domine. Alors donc, dans ces alchimies, il y a le mélange des influences et celui des genres. Et effectivement, il y a ce côté postmoderne, hyper moderne de la fusion, l'alchimie de toutes sortes d'influences que tu te plais à suivre de façon minutieuse et détaillée, et qui sont donc d'un côté celles que tu analyses dans la deuxième partie, qui est plutôt l'histoire de la matière de Bretagne et la légende arthurienne, on va y arriver, mais tout d'abord tu passes par les influences cinématographiques, théâtrales et autres.
Alexandre Astier aime beaucoup les jeux vidéo aussi, donc on sent aussi cette patte parfois qui transparaît. Par exemple, pour donner un exemple concret, il y a un épisode, d'ailleurs j'en parle, qui s'appelle Unagi, qui en fait reprend un entraînement aux arts martiaux, ou plutôt les arts martiaux à leur sauce, justement, des chevaliers Perceval et Caradoc. Et en fait, quand on va regarder un petit peu la génétique de cet épisode et son titre notamment, on peut supposer plusieurs influences, donc notamment l'idée de cuisine, parce que Unagi désigne de la cuisine japonaise et du poulpe, plus précisément. Ça désigne aussi dans les récits de pop culture et de mythologie, ça peut désigner un poulpe géant. Chose d'ailleurs que l'on m'a souligné juste avant que le livre ne paraisse, c'est une influence que je n'avais pas, même pas supposée, mais j'ai appris que Alexandre Astier était fan de Friends, donc c'est possible. Unagi, c'est aussi un trait d'humour de Friends lorsque le personnage de Ross essaye d'apprendre les arts martiaux à Phoebe et Rachel et qu'il essaye de leur expliquer la philosophie du Unagi, qui est un art martial donc, que Ross ne comprend absolument pas et qui peut-être fait écho à la manière qu'ont Perceval et Caradoc de vouloir engranger des connaissances théoriques qu'ils ont du mal à appliquer sur le self-défense. Donc, c'est pour te dire à quel point... Alors, je n'ai pas forcément de preuve absolue de ce que j'avance à chaque fois. Ce sont des hypothèses, parce qu'il faudrait interroger Alexandre Astier. Mais en fait, on se dit que le prisme culturel, justement, le brassage des références pop culture est absolument incroyable, effectivement, comme tu l'as souligné.
S'il fallait vraiment résumer, on peut dire que c'est Monty Python meets les tontons flingueurs. C'est-à-dire que d'un côté, il y a le grand tournant de la dérision érudite des Monty Python, puisqu'ils étaient plusieurs de la troupe étaient spécialistes de la culture médiévale et qu'ils se sont donc consacrés avec un grand humour le Celio de Ludere de Erasme de Rotterdam et de la tradition des humanistes, donc l'amusement sérieux, si l'on peut dire, qui convient d'ailleurs à Kaamelott aussi.
Complètement.
Cette idée de, à la fois, fascination pour les sources et en même temps, justement, du fait de très bien les connaître, le fait de jouer avec elles, comme d'ailleurs, ça n'a jamais cessé d'être le cas tout au long du Moyen-Âge. Donc, c'est aussi s'inscrire dans une tradition qui était de la reprise, qui passe par la parodie, qui passe par... qui frôle le burlesque par moment, mais qui vient d'un grand amour, je pense, pour la matière première. Alors d'un côté, il y a le côté humour absurde à la Monty Python et le fait que la référence est inévitable, puisque dès qu'on parle de parodie du monde arthurien, c'est le sacré Graal qui embarque. Mais de l'autre côté, cette tradition très française. Donc, des dialogues qui, pour moi, remontent vraiment dans sa forme cristallisée à Molière, qui lui-même était la synthèse de plusieurs autres créateurs préalables. Mais c'est vraiment cette idée moliéresque qui, par la suite, revue et corrigée par plein d'autres auteurs, arrive à quelqu'un comme Michel Audiard et dont on sent beaucoup la présence. Justement, tu parles à un moment donné que Kaamelott est un peu comme une sorte d'expansion de la célèbre scène des tontons flingueurs avec la cuite des gangsters qui tout à coup, scène qui a aussi évidemment inspiré Tarantino, etc. Enfin, cette idée de le mélange entre le dérisoire, le tragique, la violence et l'implicite, etc., etc.
Si vous ne connaissez pas Holy Grail, c'est grave, il faut réparer absolument ça. Mais surtout, si vous avez l'occasion, regardez les making-of de Holy Grail. Les Monty ont de véritables pépites d'anecdotes à raconter sur les tournages. Et c'est fantastique parce que c'est un film qui a été tourné avec un budget dérisoire pour l'époque. Et c'est encore aujourd'hui considéré comme non seulement un monument de cinéma, mais également comme une source de reprise arthurienne, on ne peut plus fiable. Et ensuite, je dirais que par rapport justement à une invocation nouvelle des classiques français par Astier, je dirais que c'est à mon avis un homme qui est amoureux de cette culture-là et qui cherche véritablement à rendre un véritable hommage à cette culture, à plusieurs cultures d'ailleurs. Je parle aussi de la culture italienne, on en parlera peut-être, Mais il y a vraiment un profond respect, je pense, de la part d'Alexandre Astier pour ce qu'il cite, que ce soit des textes arthuriens qu'il revisite ou bien de l'ambiance Tonton Flingueur, parce que voilà, je pense que c'est quelqu'un qui a été un petit peu biberonné, je dirais, à ça. Et il y a une notion de patrimoine quelque part, et le patrimoine, justement, c'est quelque chose que l'on retrouve aussi du côté de la légende arthurienne, et notamment avec la vision de cet Arthur-là, précisément, un Arthur qui est très maladroit, très enclin à expliquer comme il le peut la quête du Graal à des chevaliers qui ne comprennent pas tout. Mais il y a vraiment cette notion de transmission et de patrimoine qui reste pour le roi Arthur de Kaamelott absolument vitale. Hein, donc je pense, oui, qu'il y a ce double enjeu que Alexandre Astier a réussi à mettre en place de manière assez incroyable à l'époque et même encore maintenant.
Oui, et puis c'est d'ailleurs toute la question de la transmission elle-même de la matière de Bretagne. Donc, grande influence, disons, sur le côté de conception de l'univers, de la création des dialogues, du rythme, de l'enjeu aussi, parce que ce sont des héros fatigués, désabusés, désenchantés. Et ça aussi, ça revient évidemment avec Audiard et son univers de paumé, très sélinien d'ailleurs. Audiard avait toujours cette fascination pour le monde, l'univers de Louis Ferdinand Céline, mais en introduisant, en transformant un peu les données céliniennes de base. Et l'humour d'Audiard n'est pas exactement l'humour de Céline, qui est aussi très rabelaisien, etc. Mais ce n'est pas exactement le même humour. Et Astier se situe dans ces confluences par rapport au personnage. Mais par ailleurs, il y a des influences que tu évoques et que tu analyses plus surprenantes, comme celle de Star Wars.
Par rapport à ça, Alexandre Astier est un fan de Star Wars, notamment de la prélogie. Un grand admirateur de George Lucas. Et là, il faut faire rentrer en jeu deux autres influences dont l'une découle directement de l'autre. Tu me connais un petit peu, Antonio, et tu sais que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué dans mes études. C'est Campbell, Joseph Campbell, et également donc Christopher Vogler. Christopher Vogler qui a rédigé donc le guide du scénariste, qui est l'application cinématographique de Campbell. Et il se trouve que Christopher Vogler et Alexandre Astier se sont rencontrés, physiquement parlant, lors d'une masterclass qu'il avait organisée à Lyon. Et en fait, Astier a été profondément frappé par ses lectures de Campbell et à plus forte raison par les lectures de Vogler. Notamment Vogler, il s'est occupé du scénario du Roi Lion pour Disney à l'époque. Et c'est quelqu'un qui a appliqué Campbell au cinéma en précisant bien néanmoins que le principe du monomythe de Joseph Campbell n'est pas une formule absolue que l'on pourrait prétendre appliquer et photocopier à toute la pop culture. Il précise bien que c'est un canevas, une façon de faire particulière que l'on peut adapter et que l'on doit adapter, parce que le souci du copier-coller de Campbell, c'est déjà de finir par mal comprendre le principe du monomythe au final, et puis d'épuiser finalement cette logique du monomythe. En fait, ce qu'a fait Astier sur les conseils de Vogler dans son livre, c'est qu'il a finalement, il s'est approprié finalement les préceptes de Campbell et du monomythe, et il a finalement tracé son propre parcours du héros, donc de son Arthur, et comme je l'explicite un petit peu, en réalité, le voyage de l'Arthur d'Alexandre Astier, c'est finalement un immense refus de l'appel, puisque cet Arthur est harassé par le poids de sa destinée, et il va finir par refuser de reprendre Excalibur en main et de mener le royaume vers la lumière et vers la quête du Graal. Et par rapport, donc du coup, on y arrive à Star Wars et à Lucas. On a souvent attribué au retour du Jedi et notamment aux premiers épisodes, aux épisodes 4, 5, 6 en tout cas, on a souvent attribué ce pouvoir de ces épisodes-là, c'est d'appliquer Campbell à la lettre, d'être le récit campbellien par excellence. En fait, il faut nuancer un petit peu ça parce que dans l'histoire de création de Star Wars, en réalité, la lecture de Campbell par Lucas n'arrive qu'à posteriori de son travail, de ses premiers travaux sur Star Wars. Donc il est faux de dire que Campbell a influencé Lucas de bout en bout. Il n'en reste pas moins que effectivement, il a été admirateur du monomythe et qu'il a travaillé dessus, mais peut-être surtout sur la prélogie, justement. La prélogie qui, je le rappelle, raconte l'ascension puis la chute du jeune Anakin Skywalker vers le côté obscur, finalement. Et c'est notamment une saga qui va beaucoup marquer Alexandre Astier, il l'a dit plusieurs fois en entretien, et on peut s'amuser à aller regarder de plus près les personnages de Kaamelott et la façon dont ils rendent hommage à Star Wars justement et à la prélogie de Lucas. On a un personnage qui est Lancelot, qui est habillé ni plus ni moins comme les Jedi, et qui va suivre les pas de Meleagan, qui va prendre un petit peu les traits du sieur Palpatine, et qui va d'ailleurs reprendre à son crédit l'une de ses répliques, hein, en lui disant « Levez-vous », donc qui est, me semble-t-il, le reflet de ce que dit Palpatine à Anakin lorsqu'il a accédé totalement à la noirceur profonde de son âme. Finalement, le Star Wars a marqué Astier et a marqué Kaamelott, par les clins d'œil déguisés ou complètement assumés d'Astier à cet univers-là, puisque par exemple, il y a un épisode de Kaamelott où, lors d'un passage dans une dimension parallèle pour une quête secondaire quelconque, les chevaliers d'Arthur ramènent un sabre laser, tout ce qu'il y a de plus sabre laser Star Warsien, dans la dimension de Kaamelott, et le seigneur Perceval, pour le rapporter, doit passer vers une terre où il y a deux soleils, qui rappellera Tatooine, évidemment. Donc c'est quand même clairement assumé là-dessus, me semble-t-il.
Oui, tu évoques aussi les travaux des fans, donc il y a toute une tradition déjà d'interprétation, d'exégèse, de fanique de Kaamelott, et qui fait maintenant aussi partie du mythe de Kaamelott, donc ces extensions-là. Et ce qui est curieux, c'est qu'effectivement, c'est peut-être à la croisée de deux types de fandom. Un fandom à l'anglo-saxonne, tel qu'il y a pu avoir autour de toutes les grandes séries Buffy, Lost, etc., etc. Mais c'est à la croisée entre ça et une autre tradition qui est celle du cinéma culte, et qui était justement celle plutôt du culte des dialogues, des répliques, telles que on connaît en France l'importance de le Père Noël est une ordure, de les bronzés, Tonton Flingueur, etc. Donc ce culte qui est plutôt dans le fait de remémoriser les dialogues. D'ailleurs, tu le signales, les dialogues ont été tout de suite mis sur Internet avant que Astier donne la version officielle en volume. Et c'est vrai que c'est intéressant, tu cites beaucoup, à juste titre, donc les dialogues. Et c'est vrai que c'est curieux de voir la lecture qui nous rapproche du coup carrément du théâtre et de l'approche qu'on peut avoir par rapport à une tradition du type Labiche, Courteline, Molière, etc. Et le fait de voir les auteurs, les acteurs, les incarner, avec aussi une influence que tu signales de la performance, donc le fait qu'Astier écrit pour sa troupe et qu'il y a une interaction entre l'écrit et la performance où les acteurs peuvent changer des choses, etc.
Ce qu'il y a d'assez fou dans ce phénomène de fandom, c'est que Kaamelott, la série, tout au moins Kaamelott, la série télévisée, s'est terminée en 2009. Malgré tout, elle n'a jamais cessé d'être réactivée en France, notamment par ces phénomènes de fandom. Il existe sur les réseaux sociaux des groupes entiers de Kaamelott consacrés à 98% du temps à de la récitation des dialogues entre fans. Et pour te donner une anecdote personnelle, il m'arrive souvent alors un peu moins maintenant parce que du coup je fais un peu une overdose, mais il m'arrivait souvent avec des collègues d'université, avec des amis, voire même avec la famille, de n'arriver à parler pendant 10-15 minutes qu'avec des citations tirées de Kaamelott, sans pour autant que le dialogue soit incohérent. Parce que c'est ça aussi qu'il faut préciser, c'est que dans Kaamelott, les situations vécues par les personnages Comme la magie est désacralisée, la magie est rarement montrée, la vraie magie dans Kaamelott, c'est celle qui se trouve dans les personnages et pas dans les artefacts, pas dans les épées magiques. Donc finalement, les situations vécues par les personnages et les dialogues, les grands moments d'incompréhension entre les personnages, ce sont finalement des séquences que nous pouvons vivre nous-mêmes. Quand on s'engueule avec les gens dans un repas de famille, j'ai vécu des repas de famille qui sont... Alors, je m'entends très bien avec ma famille, hein, je les aime très fort, mais parfois, quand ça s'échauffe un peu sur un débat ou que sais-je, combien de fois avec mes frères, on s'est dit, on dirait un épisode de Kaamelott. C'est extrêmement fort là-dessus parce qu'effectivement, la communauté de fans de Kaamelott est très, très active et elle est toujours active malgré le fait que la série soit terminée depuis longtemps, mais parce qu'elle est toujours rediffusée chez nous. Et l'univers est quand même étendu dans le sens où il y a les BD, par exemple, qui arrivent ponctuellement. Ce qu'a réussi à faire Astier, c'est ce qu'a réussi à faire Arthur dans la série, c'est-à-dire fédérer autour d'une table ronde, la table ronde étant ici une immense métaphore pour dire on va se fédérer autour de Kaamelott et on va continuer à perpétuer Kaamelott dans les citations, les gifs aussi, le phénomène des gifs. Il faut savoir que Kaamelott, à mon avis, 80-85% des répliques de Kaamelott ont été mises en gif. C'est assez incroyable. Il y a des gens qui ne dialoguent que par des gifs de Kaamelott aussi. C'est assez fou. Et du coup, bah, j'ose espérer peut-être que mon livre contribuera aussi à donner un peu de nourriture au fandom. J'ose espérer, en tout cas, j'ai fait ce que j'ai pu pour ça, pour dire tout simplement, c'est une série qui m'a beaucoup marqué, c'est une série que j'ai aimée et j'ai envie de rendre hommage au travail d'Astier et de l'ensemble de ses collaborateurs et collaboratrices. Et du coup, bah, j'espère que je vais réussir aussi à fédérer non seulement les fans, mais peut-être aussi les autres, parce que le but aussi, c'est de faire découvrir un peu cette série qui semble justement un peu énigmatique. On est entre fans, on se reconnaît. Bah non, j'ai envie qu'on fasse de la place autour de la table et que justement d'autres personnes aient la curiosité de découvrir cet univers.
Oui, la métaphore de la table, d'ailleurs, qui est intéressante à plusieurs titres, puisque d'un côté, évidemment, c'est la tradition de la table ronde, mais aussi le fait que c'est peut-être ce qu'il y a de plus télévisuel dans Kaamelott, c'est le fait qu'on a souvent dit que la télé, c'était justement cette sorte de foyer mis en abîme à l'intérieur du foyer et que ça a souvent servi dans les talk shows, etc., etc., l'idée de la table autour de laquelle on discute. Et exactement. Donc, c'est peut-être ce qui, au fond, reste le plus télévisuel et ces projets de fédération, de communauté, etc., est aussi un des vieux rêves de la télévision social-démocrate, si l'on veut. Les influences sont du côté des œuvres, du côté des ambiances, etc. Elles sont aussi du côté du genre. Et tu viens juste d'évoquer le fait qu'au fond, il y a un côté totalement sitcom et par rapport à des situations tout à fait banales de la vie quotidienne, mais transposées dans un univers qui, malgré tout, malgré son désenchantement, reste un univers habité, bon, déjà exotique par rapport à la vie quotidienne, exotique dans l'espace, le temps, mais exotique aussi dans le fait que ça reste un univers où il y a des traces mystérieuses de la magie, etc., etc. Donc, au fond, il y a vraiment plusieurs genres que tu évoques. Ça peut aller du néoréalisme italien, la comédie, surtout je pense la commedia all'italienne, donc la commedia all'italienne, qui elle-même évidemment a influencé, on parlait de Molière, bah, évidemment c'est toute la commedia dell'arte, la commedia italienne qui a eu une influence, commedia italienne qui d'ailleurs avait déjà fait des parodies de la matière arthurienne à la Renaissance avec Luigi Pulci, Arioste, etc. Donc ce dialogue, en fait, la série invite un dialogue à plusieurs niveaux à partir des genres sur l'histoire des genres aussi.
Oui, et d'ailleurs, tu parles de l'influence italienne. J'aimerais revenir un petit peu dessus parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Il y a un principe qui sous-tend beaucoup la série et notamment dans le tout dernier livre, le livre 6, lorsque on va nous raconter ce récit du jeune Arturos qui a été catapulté à sa place par les Romains malgré ce que lui désirait mais qui a été quand même encadré par l'empereur de Rome, César, et qui lui a donné ce grand principe de vie, c'est que les vrais héros ne se battent que pour la dignité des faibles. Et finalement, je crois que Kaamelott pratique une télévision qui, justement, à l'instar de gens comme Federico Fellini, par exemple, met en avant les petites gens, les gens modestes, dans leur quotidien, dans leurs épreuves, et finalement, ils en deviennent héroïques à leur manière. On met le projecteur sur eux et non pas sur l'épique tel que le cinéma de super-héros américain essaye de nous le vendre depuis bien des années. Donc, je trouve que c'est quand même très intéressant d'avoir fait ça. C'était osé aussi, parce que du coup, on prend le risque de raconter une légende arthurienne peut-être moins lumineuse, mais finalement, cette perte d'éclat, entre guillemets, de la légende arthurienne ne la rend pas moins intéressante. Bien au contraire, elle permet aussi de sous-tendre d'autres discours, des discours sociaux, des discours politiques. Et c'était déjà le cas, notamment, dans Sacré Graal, puisque, en fait, le Moyen-Âge dépeint par les Monty Python n'est pas du tout lumineux, en fait. L'Arthur des Monty est un Arthur qui débarque dans une Angleterre fatiguée, et peut-être que c'est une critique humoristique et acerbe à la fois de la part de l'équipe des Monty, de leur propre Angleterre de l'époque, qui est fatiguée par la crise économique et politique que l'Angleterre traverse à ce moment-là. Donc je pense qu'il y a vraiment aussi un moyen de... Alors, c'est toujours un peu dangereux de dire qu'il y a forcément un discours politique assumé. Peut-être, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a par le prisme de ce Moyen-Âge, on peut peut-être s'identifier plus ou moins facilement à certains personnages, à certaines situations, et des vécus qui sont parfois aussi bien personnels que même universels, en fait.
On a beaucoup parlé en général de Monty Python pour Kaamelott, mais il ne faut pas oublier l'autre grande tradition de parodie médiévale qui est justement italienne, et c'est le diptyque de l'armée Brancaleone, oui. Que je n'ai pas vu cité par rapport à Kaamelott. Je suis assez sûr que s'il ne le connaît pas, ce serait étonnant. Et je pense que, étant donné sa culture, ça a dû être une certaine influence. Et justement, parce qu'elle incarne aussi cette tradition de la comédie des petites gens que tu évoques, dans un contexte épique. Mais évidemment, l'épique, désenchanté, crépusculaire ou burlesque. Et tous ces registres-là sont d'ailleurs aussi invoqués dans le diptyque de Brancaleone, qui malheureusement est peu connu donc, des anglo-saxons et tout ça. Donc souvent, ils théorisent le médiévalisme et tout ça, mais dans une perspective assez étroite du point de vue culturel. Et c'est intéressant de voir qu'il y a d'autres traditions. Et justement, Kaamelott explore aussi ces autres traditions. Dans le mélange des genres, donc bon, la comédie, le registre épique qui est invoqué pour être désarçonné, mais qui est là, qui existe. C'est-à-dire, on est quand même dans un contexte épos. Et ce sont des chevaliers, ce sont des guerriers. C'est probablement quelque chose que la trilogie filmique va explorer davantage. Je pense que les films ont déjà été écrits, donc les scénarios des trois films ont été écrits. Ce serait intéressant, mais évidemment, ça va être un grand secret.
Surtout que Alexandre Astier sait parfaitement verrouiller ces informations, il ne laisse rien filtrer. Ouais. Pour ça, il est très fort, donc on est tous dans l'attente béate de savoir à quelle sauce on va être mangé.
On peut imaginer que la transition vers le cinéma va nous amener dans un autre registre et qui se prête plus à l'épique. Et d'ailleurs, ça se situe d'emblée sous le signe de la reconquête par Arthur de son trône. C'est un peu ce qu'on attend du premier volet de la trilogie. Donc, mélange d'influence, mélange de genre. Et ta deuxième partie est vraiment consacrée à l'étude de l'héritage, de la légende arthurienne. Alors, évidemment, tu fais de manière agréable à lire cette transition par plusieurs siècles d'histoire. Alors évidemment, le but, comme tu le soulignes, c'est justement de voir ce que Kaamelott fait avec les sources, parce que sinon, évidemment, on partirait dans un énième ouvrage labyrinthique sur la tradition arthurienne, qui est vraiment immense, et tu cites plusieurs des grands auteurs, Martin Aurel, etc., les grands synthétiseurs contemporain, le livre de William Blanc sur le Arthur du monde contemporain, etc. Donc, ce qui est assez propre à Astier, c'est encore une fois le fait que là où ça semble le plus irrévérencieux par rapport à la tradition, on se rend compte que paradoxalement, ce n'est pas dénué de fondement. Donc, il y a une volonté chez lui de maintenir un dialogue avec cette tradition, déjà la connaître. Ouais. Il montre une réelle connaissance. Et au fond, même ce schéma qui est choisi, qui est celui du désenchantement et de l'assombrissement progressif, c'est celui d'Arthur. Oui, parce que Arthur, à partir du XIIIe siècle, c'est une figure tragique, c'est une figure faillible, c'est une figure qui échoue, et c'est une figure condamnée. Et c'est le roi Arthur, premièrement dans une première version, et puis ensuite, c'est le titre d'ensemble pris par Thomas Malory, ce qui est quand même incroyable. Donc, au XVe siècle, quand Thomas Malory rassemble pour la première fois en prose, en anglais, l'intégralité de la tradition arthurienne, le titre qu'il choisit, c'est « La mort du roi Arthur ». Ce n'est pas « Les aventures du roi Arthur ». Donc, c'est l'emphase est d'emblée mise sur le fait qu'on va lire une histoire qui finit mal. C'est une tragédie. Et Astier a respecté cela, bien que la fin de la série n'est pas la fin du cycle arthurien tel qu'il l'envisage et que ce n'est pas le conflit avec Mordred, donc le conflit parricide avec Mordred et la fin du royaume comme tel, mais c'est une autre fin qui passe aussi par la destruction de la confrérie, par la destruction de la table ronde. Bon, spoiler par rapport à Camelot, mais c'est ça le sens de la série, mais avec une variante. Donc, Arthur ne meurt pas dans la bataille. Ce n'est pas cette bataille-là qui est racontée. On peut imaginer qu'il va la raconter par la suite si le projet continue.
Oui, là, il n'y a que lui qui pourrait répondre et il ne répondrait pas, je pense. Il ferait exprès de ne pas répondre. Mais alors, sur le côté médiéval, pour y revenir un tout petit peu, si tu veux bien, j'en profite vraiment pour renouveler. Normalement, je l'ai correctement fait en fin de livre, j'espère n'avoir oublié personne. Mais j'en profite vraiment pour renouveler ici mes remerciements à tous. Et toutes les collègues médiévistes qui m'ont aidé justement dans la matière arthurienne avec les sources, parce que justement moi à la base je viens des super-héros, si je puis dire, je viens des comics, et c'était pas forcément évident pour moi de me jeter dans ce projet-là. Et même si j'ai des bases, enfin j'ose le dire quand même plus que des bases en littérature médiévale, parce que j'ai quand même du master en littérature médiévale en tant qu'ancien élève de Philippe Walter notamment, donc du coup j'avais quand même des connaissances un peu solides, mais qui demandaient à être customisées, et mes collègues médiévistes se sont montrés absolument efficaces et adorables dans leurs sources et leurs relectures pour vérifier que je ne disais pas trop de bêtises sur Arthur et sur le Graal. Ce qui m'a surtout fasciné, alors du coup, paradoxalement, c'est peut-être le chapitre qui a été le plus difficile pour moi à écrire, mais c'était aussi un des plus captivants que j'ai écrit, parce que quand tu te plonges dans l'histoire d'Arthur, t'en sors pas indemne, quoi. C'est vraiment passionnant. Passionnant de voir comment les auteurs ont travaillé leur propre matière, notamment Geoffroy de Monmouth, qu'on cite à tort comme étant le premier à citer Arthur, mais c'est faux. Et justement, c'est ça qui est magnifique, c'est l'espèce de brouillage historique ou pseudo-historique autour du personnage d'Arthur. C'est absolument génial parce que aujourd'hui, il y a encore débat pour dire est-ce qu'Arthur a ou n'a pas existé. En fait, il faudrait plutôt se dire que le problème, c'est de savoir de quel Arthur on parle. Et finalement, on se retrouve avec un véritable patchwork de textes et de traditions oralisées qui parlent d'un Arthur qui tantôt est chef barbare, qui tantôt est général romain, qui tantôt est un fils de la Bretagne. Enfin, ça mélange un petit peu. Et ce qui est magnifique, notamment chez Monmouth, c'est qu'il va te citer par le menu l'histoire des rois de Bretagne avec des faits plus ou moins avérés, plus ou moins recompilé par ses soins, et il va te mettre les prophéties de Merlin en plein milieu avec des dragons comme étant un récit avéré qu'on lui a transmis et qu'on lui a demandé de recoucher sur papier. Les chroniqueurs médiévaux aiment jouer avec la vérité, en fait. Ils adorent jouer avec la matière historique et merveilleuse, Et je pense que c'est pour ça qu'Arthur s'est aussi bien adapté à l'époque dans laquelle il transite finalement. Parce qu'Arthur, il est présent à toutes les époques. Et comme tu l'as dit, à partir du 15e, on va perdre l'icône identitaire et politique d'Arthur. Et l'Écosse, notamment, va commencer à s'en moquer et à le désacraliser. Mais les mythes, par essence, c'est des choses qui se réactivent au gré des besoins et des attentes de leur milieu, de ceux qui les reçoivent, de celles et ceux qui les reçoivent. Et finalement, le roi Arthur est mort au sens littéraire, mais il n'est jamais mort finalement. Il est sans arrêt réinvoqué, ressuscité. Et finalement, on pourrait dire que le récit d'Astier est une continuité supplémentaire postmoderne d'Arthur.
Oui, puis donc dans cette idée de fidélité parfois paradoxale à cette tradition, le Graal, donc avec le célèbre truc de la boîte à anchois, c'est au fond assez fidèle aussi au fait que, justement, déjà c'est une christianisation tardive du mythe qui intervient, justement avec cette pression qu'il y a dans la féodalité entre les clercs et les bellatores, les guerriers, et donc c'est une tentative clairement de la part des clercs d'annexer l'univers guerrier d'Arthur à une sorte de schéma providentialiste, chrétien, etc. Et ça passe par une énigme, puisque très vite, on commence à se poser la question de c'est quoi ce terme même de Graal, quelles sont ses origines linguistiques, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et tu le montres bien dans le livre, le fait que dans Astier, ça donne lieu à toute une série de blagues. Donc, c'est le bocal à anchois et non pas la boîte, ce qui serait un anachronisme. Et justement, Astier joue très bien la question des anachronismes très contrôlés. Et donc, ce bocal à anchois serait parfaitement envisageable à l'intérieur de la discussion médiévale autour de est-ce que le Graal est un vase, quel type de vase, etc. etc. Bon, évidemment, on peut bien se douter que l'imaginaire du Graal clérical était celui de l'Eucharistie et que donc c'est vraiment l'imaginaire d'une coupe qui est présentée, mais ça devient de plus en plus complexe au fur et à mesure des formules. Et donc Astier est en train de s'inscrire dans cette tradition avec l'idée que forcément le Graal, finalement, c'est vraiment l'énigme à partir de, donc dans le dialogue assez rigolo de cet épisode, c'est est-ce que c'est un récipient, quel type de récipient, etc. etc. Mais ce sont des choses que l'exégèse s'était déjà posées.
Ce que je trouve fabuleux avec le Graal et à plus forte raison avec ce qu'on a fait à Astier, c'est que finalement le Graal, on se fiche de ce que c'est. L'essentiel, c'est de le chercher, justement. C'est ce qui motive la quête. L'objet même, Graal, n'a pas d'intérêt en lui-même. C'est ce que nous explique Astier. Et c'est ce que finalement... En fait, quand tu reprends le Graal dans l'histoire littéraire et idéologique de l'affaire, finalement, tu te rends compte que Chrétien de Troyes, il n'a invoqué ce Graal que comme un point de détail. C'est juste une simple coupe qui passe dans un repas, finalement, au cours d'un repas apporté par une servante. Mais on explique au seigneur Perceval qu'il aurait dû poser la question de savoir ce qu'était cette lance et ce qu'était ce Graal, ce plat, en fait. À l'origine, chez Chrétien de Troyes, c'est un plat, vraisemblablement un plat à poisson. Et en fait, d'un point de détail, somme toute complètement anodin, on a fait une quête entière, une quête de sens. Il y avait un espèce d'appétit des continuateurs, une sensation de faim, F-I-M. Il faut savoir ce que c'est que ce Graal. Et en fait, quelque part, tout, entre guillemets, a découlé de là. C'est qu'on a généré une énigme du Graal. Et après, il y a eu la récupération par le christianisme d'un symbole, somme toute, complètement païen à l'origine. Et ce que je trouve assez, assez passionnant. Donc finalement, la théorie du bocal anchois, elle n'est pas plus ridicule qu'une autre en réalité. C'est simplement que, en plus, Perceval est quelqu'un d'extrêmement intelligent d'une part et pragmatique d'autre part. On lui dit, il faut récupérer le sang du Christ. Comment on récupère le sang? Dans un bocal fermé par un couvercle, ça paraît tout à fait envisageable en soi. Et c'est vrai que, comme le dit Léo Dagan, très pragmatiquement aussi, récupérer du sang dans une petite coupe ou même dans une pierre incandescente, Ben, comment on fait, en fait? Donc, on voit bien que c'est la dimension symbolique de la quête qui compte et non pas, en réalité, la véritable nature du Graal. On s'en fiche, en quelque sorte, de l'énigme du Graal. On s'en fiche complètement de savoir si c'est le sang du Christ ou pas. Peu importe, ce qui compte, c'est justement la recherche autour de ça, me semble-t-il.
Ben, c'est notre version contemporaine, parce que pour le Moyen-Âge, la signifiance et l'importance,
oui,
de donner,
alors,
le sens était cardinale. Sauf
qu'effectivement, il y a une différence importante, effectivement.
Avec le désenchantement, donc, qu'on peut dire postmoderne ou hypermoderne, c'est devenu une sorte de MacGuffin, au,
oui,
sens de Hitchcock. Mais il reste que, encore là, il y a une certaine fidélité de Astier, déjà à articuler le récit autour de la quête du Graal, ce qui est quand même aussi un principe que les médias, au Moyen-Âge, ils ont compris, les écrivains, c'est qu'il fallait un principe unificateur pour ces histoires,
oui,
qui autrement étaient juste comme des historiettes, une sérialité un peu itérative. Tout simplement, des gens arrivent chez Arthur et il leur arrive un pépin, et puis il faut aller dans un château pour pallier à une mauvaise coutume, ce qu'on appelait les mauvaises coutumes, ou se débarrasser d'une créature. Et donc, Astier reprend ce principe unificateur du Graal en le motivant d'une autre façon. L'intérêt d'Arthur pour le Graal est lui aussi transformé, etc., etc., dans la série. Mais c'est ce jeu-là de respect et de irrévérence qui fait le charme aussi de la série, comme tu le signales. Ensuite, donc, dans la troisième partie, justement, tu t'intéresses à la question de la filiation, la transmission, qui sont des grands thèmes, la paternité aussi, qui sont des grands thèmes dans Kaamelott et qui sont directement aussi imbriqués dans cette longue histoire de la légende arthurienne. Donc, il y a là aussi une sorte de mise en abîme. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que le fait que ce soit un regard français, parfois carrément franchouillard au sens de cette tradition très tonton flingueur, etc. Enfin, des choses qui ont peu fonctionné à l'extérieur parce qu'elles sont très proches d'une sorte d'idiosyncrasie culturelle hexagonale. Mais au fond, c'est aussi revenir aux sources françaises de la légende arthurienne et évidemment la grande tradition donc, qui commence avec Chrétien de Troyes, etc. Ce qui est aussi une des richesses de la tradition arthurienne parce que, bon, évidemment, les anglo-saxons en ont fait une figure tout à fait nationale d'Arthur, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a été très vite un mythe pan-européen. Et que justement, si les Italiens ont fait des versions en marionnettes, d'ailleurs, les poupies apparaissent, oui, dans la série de Kaamelott, et tu en parles justement autour de la question de la transmission. Et ben justement, si les personnages d'Arthur étaient devenus des poupies, des marionnettes en Italie, et qu'on les retrouve dans les novelas de caballerías en Espagne, etc., etc., c'est qu'il y avait un appel directement transnational à l'échelle du Moyen-Âge. Et donc, tu t'intéresses à cette question de, en lien avec l'alchimie, je pense aussi, mais la question donc de comment la série elle-même introduit, donc tu parlais de communauté tantôt, et au fond prend à cœur cette question de l'héritage.
Je crois que cette série, enfin, j'en ai en tout cas la conviction profonde, je me trompe peut-être, mais c'est simplement une conviction personnelle, je pense que cette série est en partie un grand récit justement sur la notion de transmission, de parentalité et de paternité, à plus forte raison. Alexandre Astier est un papa, lui-même, il est papa de 7 enfants. Alors, oui, il est de nombreuses fois papa. Je ne sais pas dans quelle mesure Alexandre Astier ressemble à Arthur. Je ne sais pas dans quelle mesure on peut aller là, donc je ne vais pas y aller. Je pense simplement que, et là je prends moins de risques parce qu'il l'a dit lui-même, que le thème de la filiation et des enfants le préoccupe beaucoup dans toute son œuvre. Que ce soit Kaamelott ou même c'est Astérix, ces deux longs métrages d'Astérix, dont l'une adapte le domaine des dieux et l'autre est un récit original, Le secret de la potion magique. Et donc en particulier dans ce dernier récit, Le secret de la potion magique, les enfants et la notion d'avenir et de transmission sont vraiment au cœur de son œuvre. Et en fait, finalement, Arthur n'accède à la véritable révélation qu'à partir du moment où il prend la décision de partir en exode, donc de commencer un nouveau voyage du héros, on peut dire, pour aller chercher sa propre descendance. Et justement, la notion d'héritage est capitale parce que Arthur est quelqu'un, est un monarque qui tient absolument à ce que toute la légende, même les épisodes les plus anecdotiques, même les plus ridicules, pourrait-on dire, soit consignée par un scribe chrétien, et il a à cœur que l'image publique des chevaliers soit respectée, soit respectable. C'est pour ça qu'il fait la chasse à la beuverie et il engueule vertement ses chevaliers quand ils vont se saouler à la taverne, parce qu'il veut absolument que les générations futures, et à plus forte raison les enfants, aient une belle image d'Arthur et de ses chevaliers, même s'il sait que justement la quête du Graal est une quête finalement assez triste, faite de désillusions, mais il n'empêche qu'il a ce souci de l'héritage transmis, l'héritage écrit, l'héritage oralisé et l'héritage porté par les enfants.
Oui, et ça passe par, évidemment, c'est très méta-référentiel et méta-textuel, puisque beaucoup d'épisodes fonctionnent sur ce principe même. Et tu analyses très bien en détail, de façon minutieuse, le fonctionnement de plusieurs épisodes et plusieurs dialogues. Et oui, c'est souvent la confrontation entre l'image de la légende et l'arrière-fond. Astier lui-même a souvent évoqué que c'était justement cette idée-là qui le plaisait, c'était d'essayer de se camper dans le quotidien derrière le mythe. Et donc, du coup, tout ce qui est... On revient un peu au principe du charme de Kaamelott, c'est-à-dire qu'on a une grande structure épique, on a des personnages qui ont un aura, un charisme qui les précède, Merlin, Arthur, Lancelot, Perceval... Et d'un autre côté, ce qu'on voit, c'est une sorte de caméra café de Kaamelott. Donc, l'idée que justement, bah, on ne trouve pas ses chaussures, on ne trouve pas tel truc. Et des fois, c'est ça qui déclenche les situations comiques. Ou d'autres fois, c'est au contraire le décalage entre le côté, la grandeur de la légende et les problèmes que ça pose. Tu analyses par exemple cet épisode très sympathique raconté en alexandrin, intégralement, donc pour fêter le jour d'Alexandre le Grand, etc.
Astier est vraiment quelqu'un qui a aussi un amour de la langue française. Et même s'il peut avoir parfois un parler dans sa série un peu familier, un peu oralisé justement, un peu héritier de Michel Audiard, on pourrait dire, et des flingueurs, on y revient toujours, n'empêche que c'est une série extrêmement écrite, extrêmement respectueuse d'une grammaire. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai tenu à ce point à respecter à la virgule près, si je puis dire, ou du moins j'ai essayé à m'en abîmer les yeux sur les pages, mais des scripts originaux publiés par Alexandre Astier, des scripts qui sont d'ailleurs, les livres, des scripts le précisent, qui sont d'ailleurs légèrement différents de ce qu'on peut entendre dans les DVD, parce que justement, de temps à autre, Alexandre Astier retravaille un tout petit peu le dialogue avec les comédiens pour qu'ils puissent justement se l'approprier, pour que vraiment le personnage campé par le comédien ou la comédienne soit son personnage. Alexandre Astier écrit pour les autres, on l'a dit aussi. Et je crois que c'est ce qui fait que la série est si efficace et que les personnages sont si attachants. C'est que justement leur parler ressemble au nôtre. Et finalement, les dialogues, c'est du vécu. Si tu enlèves le côté Excalibur, Dragon et compagnie, c'est du vécu. Ce que disent les personnages, le fait de se poser la question d'avoir des enfants, de se demander comment on fait les bébés, de se demander c'est quoi être noble, c'est quoi... Parce qu'il ne faut pas oublier justement qu'il y a un double tranchant aussi, c'est qu'il y a des passages extrêmement tragiques aussi dans Kaamelott. Il y a des passages extrêmement tristes. La dispute entre Lancelot et Arthur, elle est terrible. Elle part d'un enjeu politique, mais aussi d'un enjeu humain, en fait, hein, puisque Lancelot va partir avec Guenièvre. Donc ça, c'est un épisode assez classique de la légende arthurienne. Mais je pense que, et là, il faut en parler, je pense qu'il y a un aspect qui célèbre, ou plutôt dépeint, avec je pense, une certaine justesse, la notion de mélancolie. Voilà, on va trouver aussi pas mal d'épisodes d'ivresse où les personnages se saoulent dans Kaamelott, parce que justement, ils ont un costume qui est trop grand pour eux, et finalement, ils participent eux-mêmes à un théâtre de marionnettes avec une quête du Graal qui les manipule finalement et un destin dont ils n'ont pas forcément voulu. Mais pour Solon, même si on échoue, on va continuer d'essayer. Et ça, je crois que c'est très important dans la logique d'Arthur et d'Astier, du coup. C'est à moitié un lapsus que je viens de faire. C'est qu'il dépeint des héros qui échouent, mais par contre, il leur laisse la possibilité de se relever et de réessayer en permanence leur quête, je pense.
Oui, absolument. Et c'est la force. C'est un peu Beckett, Samuel Beckett, fail better, donc échoue mieux, échoue encore, échoue mieux. Ce que j'aime mettre en scène, dit Astier, c'est la réponse très humaine de gens qui ne sont pas plus forts que n'importe qui, voire même moins forts pour certains, à une question héroïque. Et ça nous pose un peu la question, tu as une phrase à un moment aussi qui est bien tournée, Alexandre Astier a pioché dans des matières infinies pour dépeindre des héros qui dans les légendes semblent inépuisables, pourtant dans la réalité d'Alexandre Astier et dans ce royaume d'Arthur, les héros s'épuisent et leur monde les écrase. Et je pense que c'est là où on se pose la question, tu as une autre formule à un moment, actualiser le mythe pour commenter le monde. À ce moment-là, tu parles plus des Monty Python, mais ça s'applique évidemment à Kaamelott. La question du contexte historique et idéologique. 2005, c'est le deuxième mandat de Chirac, de Jacques Chirac. La série finit en plein sarkozysme. Et je me demande finalement si tout ce climat de désenchantement par rapport aux rêves héroïques, etc., c'est pas une certaine image de la France.
Ce n'est pas impossible. Je t'avoue que je n'ai pas mené mon investigation dans ce terrain-là, effectivement, mais ce n'est pas impossible du tout, d'autant que Alexandre Astier réussit encore une fois le tour de force de citer plusieurs philosophies et régimes politiques à la fois dans Kaamelott. Il y a plusieurs théoriciens politiques qui sont invoqués au travers des personnages dans Kaamelott, et justement, toute la difficulté du règne d'Arthur tient au fait que ce sont des politiques contradictoires qui essayent de collaborer ensemble. On pourrait dire que Lancelot, par exemple, est un adepte de la méritocratie, qui considère que seuls les élus sont dignes d'accéder à la quête du Graal, là où Arthur, de ses propres mots, est un progressiste qui essaye de donner sa chance à tout le monde et qui essaye de mettre le peuple le plus confortable possible malgré une condition difficile. De la même façon, il pose la question de l'abolition de la peine de mort, de l'esclavage. Et par rapport au paysage français, c'est vrai que je ne me suis pas arrêté sur l'évolution politique de notre pays pendant la série, mais maintenant que tu le dis, effectivement, on a commencé sous Chirac et on a fini par Sarkozy, il y a peut-être quelque chose. Je ne peux pas, encore une fois, il faudrait poser la question à Alexandre Astier lui-même. Je ne sais même pas peut-être s'il y répondrait, je ne sais pas, mais en tout cas, oui ça se défend, sans doute.
Parce qu'on a beaucoup parlé d'une sorte de crise de l'identité. On a beaucoup parlé de la crise de la puissance moyenne française, une grande nostalgie pour les grandes figures paternelles du passé, que ce soit Mitterrand, pour d'autres De Gaulle, etc. Mais cette image un peu de déréliction, l'opposition entre les 30 glorieuses et ce qu'on a appelé les 30 piteuses. Oui. Et c'est un peu dans ce climat-là d'une sorte de rêve de puissance qui échoue, rêve de leadership qui échoue. Arthur est humain trop humain pour pasticher Nietzsche. Et au fond, c'est un personnage extrêmement faillible, comme on pouvait tout à fait se représenter Chirac, puisque Chirac, lui, représentait aussi cette sorte de nostalgie d'un panache, d'une autre époque, etc., mais qui, au fond, était devenu très, très vide et où il y avait une ambiance de déconfiture généralisée, je pense, qui était déjà installée dans ces années-là.
Et Chirac avait aussi chez nous ce petit côté franchouillard, proche du peuple, sympathique, cristallisé un petit peu par les guignols de l'info chez nous. Oui. La marionnette de Chirac est pour le moins très célèbre chez nous parce que justement il lui donnait complètement ce côté franchouillard qui va tâter un petit peu le derrière des vaches dans les grandes manifestations de l'agriculture. Donc il y avait ce petit côté franchouillard qu'avait beaucoup moins Nicolas Sarkozy par la suite. Donc il y avait une espèce de sympathie, on va dire, latente pour Chirac de ce côté-là. Et il se peut que Kaamelott la cite à certains égards, effectivement.
Oui, ou plutôt l'ambiance, non,
l'ambiance
d'une époque et d'une vision du monde qui est déchangée à plusieurs domaines. Le fait que le surnaturel ne fonctionne plus dans l'univers de d'Astier, bien qu'on y renvoie à plusieurs reprises. Bah, tu parlais des sabres laser, il y a des références à Stargate, etc. Oui. Au fond, c'est justement aussi des imaginaires qui viennent de la pop culture anglo-saxonne américaine, avec ce lien aussi un peu complexe, non, de la France par rapport à l'hégémonie culturelle états-unienne. Donc, je pense que oui, il y aurait quelque chose d'intéressant à voir du côté de la situation un peu idéologique de Kaamelott, d'Arthur. Tu fais une bonne analyse de la question du pouvoir à l'intérieur de la série, mais c'est vrai que ça serait intéressant de faire un peu un dialogue, peut-être dans un autre contexte, mais un dialogue avec le pouvoir, la représentation du pouvoir par ailleurs. Au final, je te cite, c'est encore sur le thème de l'héritage que se clôt le livre 6, ainsi que la série. Dies Irae, ultime épisode, fait écho, comme nous l'avons expliqué, à la genèse de Kaamelott, puisqu'effectivement, Dies Irae, tu l'expliques, c'est le premier court-métrage qui va servir un peu comme de pilote pour Kaamelott. Mourant, Arthur confie toute son histoire au père Blaise et à ses tablettes de cire, transcrivant la légende comme un testament. Il lègue ses pouvoirs à Lancelot, qui lui choisit d'effacer les écrits, de brûler la table et d'entamer un nouveau chapitre que les films vont continuer d'écrire. Et c'est là où, effectivement, ton ouvrage s'arrête et où, pour l'instant, Kaamelott est resté un peu dans cette sorte d'animation suspendue par la récupération des fans, la transformation, donc tout ce que tu évoquais, l'immense attente générée par la trilogie. Mais en tout cas, ce qui est déjà très intéressant, donc, c'est le fait que l'œuvre, sous une certaine forme, elle est déjà close, donc l'œuvre sous son format initial télévisuel est close. Il y a fort à parier que les films constitueront une autre modulation de l'œuvre, bien que la diégèse se poursuit, etc., etc. Mais on peut imaginer des importantes transformations, et on peut imaginer que tu vas aussi écrire, donc, en tant que grand fan, probablement à l'issue de la trilogie, peut-être que tu poursuivras le travail entamé dans Kaamelott.
C'est un souhait, en tout cas. J'aimerais beaucoup qu'il y ait un volume 2. Après, bah, voilà, il va me falloir justement la matière des films pour le faire. Voilà, en attendant, j'ai d'autres projets. Donc oui, évidemment, moi, je pense que j'en ai pas fini avec Kaamelott. Enfin, j'espère que non, en tout cas.
Est-ce que tu as envoyé un exemplaire à Astier ? À mon avis, ça lui ferait plaisir. L'auteur, des fois, ne sait pas nécessairement, n'est pas la personne la mieux placée pour justement comprendre ces jeux d'influence. Oui. Parce que des fois, ce sont des influences qui, sur le point de vue biographique, ne viennent que par un biais. Mais au fond, ce biais-là, il a pu être informé par plein d'autres. Il y aurait la question des visiteurs, par exemple. C'est une œuvre que tu n'évoques pas, mais qui…
C'est vrai que je ne l'ai pas évoquée.
Et dont on se pose la question, donc, parce qu'il y a aussi quand même des points qui peuvent nous faire penser aux visiteurs. Mais est-ce que Astier l'a vu, l'a apprécié ou non ? Toujours est-il que le fait qu'une œuvre comme Les Visiteurs précède Kaamelott fait que forcément le critique doit tenir compte de ces œuvres-là. C'est donc, des fois, l'auteur, ce qui est intéressant quand il est vivant, c'est justement qu'il y a un dialogue qui peut se faire. Mais ce n'est pas nécessairement lui qui aura le dernier mot. C'est plutôt le critique qui met en lien avec des grands courants de pensée, avec des grandes figures, avec des grandes évolutions.
C'est pas tant, si tu veux, ce qui me pose un stress, c'est pas tant d'avoir dit des choses vraies ou fausses sur ce qu'a essayé de faire Astier ou pas, parce que comme tu le dis, peut-être que lui n'a pas cette lecture-là, et peut-être que ce que je vais dire va l'intéresser. En fait, si tu veux, Mon point, c'est d'avoir le plus fidèlement possible respecté son travail, en fait. J'espère avoir été respectueux le plus possible de son travail et de ce qu'il a essayé de faire passer, c'est surtout ça.
Je vois mal comment il pourrait... Non, le livre est très bien. Et d'ailleurs, comme tu le dis, ça s'adresse autant aux fans qu'à des critiques de la culture pop, ou à des, même justement à des médiévistes ou, qui voudraient plonger un peu dans l'univers de Kaamelott, etc. C'est une lecture tout à fait pertinente et agréable et qui illumine bien plusieurs aspects de l'œuvre. Merci Clément, donc à une prochaine. Merci à tous ceux et celles qui nous écoutent et à bientôt pour une autre émission Pop en Stock.